9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Noémie Delattre.
Bonjour Philippe Bondel.
Vous êtes comédienne, humoriste, mais pas seulement, vous êtes en quelque sorte également essayiste. Votre actualité, c'est la reprise de votre spectacle féministe pour hommes. C'est le dimanche à 18h à la Pépinière Théâtre. Pourquoi 18h? Parce que c'est l'effet...
Exactement, l'effet Covid, l'effet couvre-feu.
L'effet couvre-feu, voilà le mot qui me manquait. Spectacle qui vous avait valu une nomination au dernier Molière dans la catégorie très convoitée du meilleur seul en scène. Féministe pour hommes, c'est le titre. Il y a un H majuscule à homme. Pour quelle raison?
Ah, merci Philippe. Parce que en fait, je suis un homme, vous n'êtes pas sans le savoir, grâce à cette langue française merveilleuse où on prétend qu'il suffit de mettre une majuscule pour que ça englobe la totalité de l'humanité. Donc j'écris féministe pour homme pour dire que c'était féminisme pour tout le monde, féminisme pour l'humanité, et pour qu'on me pose la question, ce qui me permet à la fois de dire que la langue française est sexiste et qu'il faut commencer à faire quelque chose contre ça, et aussi pour dire que, pour les gens qui se trompent et qui pensent que c'est féministe pour les hommes, les mâles, dire que c'est vrai, effectivement, c'est un spectacle de vulgarisation, c'est un spectacle populaire, gay, pas du tout en guerre contre les hommes et qui s'adresse vraiment à tous et à toutes.
Pour donner la tonalité du spectacle, extrait.
On a l'impression que rien qu'en disant le mot féministe, on se transforme instantanément en monstre frigide, désireux d'abolir la galanterie, de castrer les séducteurs. Le tout, hein, bien sûr, en suintant une vieille sueur écrelette. Tu vas te justifier si tu travailles, et si tu ne travailles pas? Tu vas te justifier si tu vieillis, si tu te caresses, ou si tu pètes? Mais tu t'en bats les steaks! Parce qu'une fois par an, le 8 mars, c'est ta journée!
Au-delà de ce qu'on appelle parfois à tort la journée de la femme, c'est quoi le propos du spectacle? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Qu'est-ce que vous voulez démontrer?
Alors, j'essaye de ne rien démontrer. J'essaye de ne pas apporter de réponse, de ne pas conduire de voix. J'essaye vraiment de poser des questions. J'essaye d'allumer la flamme de la réflexion en chacun et en chacune. J'essaye d'alerter, de montrer un petit peu à quel point on vit dans un monde totalement sexiste et que ce sexisme en fait pèse autant sur les épaules des femmes que des hommes.
Donc vous avez une manière d'alerter avec un petit procédé très intelligent. Vous dites que le sexisme est partout et qu'il est insidieux, y compris chez les gens qui ne se considèrent pas comme sexistes. Or, ces gens-là ne se considèrent pas non plus comme racistes. Alors, vous faites une proposition, remplacez dans une phrase le mot femme par le mot noir. Qu'est-ce que ça donne ?
Ah bah ça donne des trucs vraiment, vraiment pas mal, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on dit sans problème. Par exemple, les femmes sont naturellement plus à l'aise avec le travail domestique. On entend ça tout le temps. Enfin, bah oui, c'est naturel parce que les enfants, la préhistoire, enfin, on a tout un tas de conneries. Imaginez si on disait les noirs sont naturellement plus à l'aise avec le travail domestique. Bah, d'un coup, ça choque tout le monde et on se fait caillasser parce qu'on est raciste.
Autre exemple ?
Les femmes sont moins fortes en maths que les hommes. Tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, c'est dans tous les... Les noirs sont moins forts en maths que les blancs? Aïe, 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 ça pique, hein.
Exactement. Vous avez raconté une fois que votre colère a eu un point de départ. C'était la remarque d'un régisseur, si je suis bien informé, qui s'était réjoui de l'élection de Dilma Rousseff à la présidence de la République du Brésil.
Ah là là, c'est vieux, oui, effectivement. Alors, je pense pas que c'était un point de départ, mais effectivement, ça m'avait beaucoup énervé de me dire « Ah d'accord, on en est si loin !» que le fait qu'une femme soit élue, on devrait dire merci. Mais on ne dit pas merci. En fait, cette femme est compétente, cette femme s'est battue, cette femme est une politicienne. Enfin, cette femme mérite sa place. Elle n'a pas à dire merci. Ça m'avait fait pareil d'ailleurs pour Laurence Bloch sur France Inter. Enfin, cette femme est là où elle mérite, point. Ouais.
Et je précise que c'est une femme qui dirige Europe 1. Constance Benquet qui nous écoute et que je salue.
Bonjour.
Vous qualifiez ainsi les clips de rap l'Eldorado de la connerie sexiste. Et je dis pourquoi ça m'a interpellé, c'est que, ironie du sort, c'est que ce sont les magazines, c'est là où c'est insidieux le sexisme, ce sont les magazines qui se disent les plus progressistes, les plus féministes, qui défendent le plus le rap.
Alors, d'abord, j'ai beaucoup évolué parce que le rap a évolué depuis que j'ai écrit cette phrase.
Ouais.
Et je connais maintenant plein de rappeurs et de rappeuses vraiment formidables avec des clips hyper investis.
Ah, bien sûr.
Enfin, donc ça a beaucoup changé depuis que j'ai écrit. Donc d'ailleurs, j'ai changé cette phrase dans le spectacle. J'ai dit certains clips de rap, voilà. Et par ailleurs, sur le sexisme des magazines féminins, malheureusement, il n'est pas à démontrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans leur défense des clips de rap. Il y a vraiment des
Je ne m'attendais pas à ça. Vous trouvez que les magazines féminins sont sexistes ?
Beaucoup. Beaucoup.
Oui, ça se manifeste beaucoup. Comment ? On va pas donner de nom, mais ça se manifeste comment ?
Bah, c'est-à-dire qu'on peut avoir en page de gauche les femmes afghanes et en page de droite les cuissards de Mustafa, enfin pour ou contre les cuissards, le vrai débat de l'hiver. Enfin, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pas possibles. On a tout un dossier contre l'anorexie et la page d'à côté, on a une mannequin qui pèse 35 kilos et qui fait semblant de manger un gâteau à la crème. Ouais. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de paradoxe. Mais après, je sais pas si je m'en sortirais mieux à leur place. Hein, genre, jette pas la pierre. Faut bien qu'elle bouffe. Faut bien. Il y a des annonceurs. Non, mais c'est vrai. Enfin,
je souris parce que je me disais, faut bien qu'elle bouffe, mais pas trop. Parce que souvent, un des gros titres, c'est perdre 3 kilos avant l'été.
Ouais,
vous restez avec nous, Noémie Delattre. Il y a Hélène Manarino qui est très impatiente de faire votre portrait inattendu. Et nous aussi avec. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la comédienne et humoriste Noémie Delattre, qu'on verra demain aussi, ou mercredi, pardon, dans 10%. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Avant d'entendre votre portrait inattendu, félicitations pour cette nouvelle émission.
Merci beaucoup.
Ça va s'appeler comment ?
Ça va s'appeler Rétroscopie.
Ça démarre quand ?
Ça démarre en décembre, vous allez voir.
On a hâte de voir.
Je ne donne pas la date.
C'est à vous.
Je suis ravie. Merci en tout cas. Bonjour Noémie Delattre.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, non, et surtout pas nono, vous détestez. D'ailleurs, si quelqu'un le tente, vous le dites tout de suite, au moins c'est clair. Donc, non, le premier mot que vous avez prononcé, c'est podomètre.
C'est vrai ?
Comment ça se fait ?
Vous étiez enfermé dans une
espèce de fric.
Donc, ce matin...
C'est quoi ce mot ? Ça se mange même pas.
Ce matin, je vous propose de marcher le long de votre vie. Restons sur nos pas, l'enfance, la vôtre. À 4 ans, vous dites à vos parents que vous voulez faire du théâtre. Ils vous répondent, tu nous redis ça à 10 ans et on t'inscrit. Et le jour de vos 10 ans, c'est la première chose que vous leur avez déclarée. Vous avez avancé à votre rythme avec quand même une longueur d'avance, puisque toute petite, vous aviez un vocabulaire très très développé. À 2 ans, quand on vous disait « je laisse la porte ouverte », vous répondiez « non, je préfère la pénombre ». 2 ans. Quand on vous montrait des éoliennes en vous disant « regarde, les petits moulins », vous répondiez « non ». Ce sont des éoliennes. Oh. Oui, vous avez toujours 2 ans. Et quand vous passiez devant une église, vous affirmiez que ce n'était pas une porte, mais un Porsche. Alors, Noémie Delattre, sur votre chemin, il y a eu aussi les spectacles avec Lucille, une de vos copines qui vivait avec vous et votre maman. Le spectacle, c'était tous les mercredis, avec un vrai scénario juste pour votre mère. Et puis, vous avez grandi. Vous rêviez devant Jimi Hendrix et Prince. Vous buviez beaucoup de café à la place d'aller en cours. Ouais, et puis, vous avez vagabondé. Vous étiez en place pour les voyages et ça a commencé avec votre stage de voile à l'âge de 16 ans. Pas question d'y aller à reculons. Et pour cela, vous avez trouvé une super astuce. Changez de prénom pendant le stage. Votre but, que tout le monde pense que vous vous appelez Lou.
Ah oui ? Pourquoi ? Ça servait à quoi ?
Ben en fait, je crois que j'allais vraiment pas bien. Donc, de manière générale, j'essayais de changer d'identité, de prénom, d'être très performante. Enfin, tout ça allait un peu dans le même sens. Je vous en supplie, aimez-moi, ne me rejetez pas.
Et vous vous êtes entraînée avec votre meilleure copine à l'aéroport. Et pendant 10 jours, ça a marché jusqu'au jour où votre maman a téléphoné en demandant « Noémie ». Sauf qu'il n'y avait pas de Noémie. Mais le rapprochement a vite été fait. Alors, Noémie Delattre, après cela, il y a surtout eu les États-Unis.
Baby, baby, can I go? Wow. Ça vous touche, hein?
Ouais, beaucoup.
Pourquoi ça vous touche? Qui entend-on?
Tracy Chapman.
Ouais.
Effectivement. Pardon, je suis vraiment très émue. Merci beaucoup. Les États-Unis, en fait, c'est le premier voyage que j'ai fait seul avec une copine et un sac à dos. On avait 17 ans.
Ouais.
On est parti presque 2 mois dans les déserts américains, en Arizona, Utah, Nouveau-Mexique, Colorado. Et je me souviendrai toute ma vie de cette sensation. On voyageait en bus, enfin c'était incroyable. J'avais des Converse à l'époque, et donc j'avais mes Converse posées sur le sable du désert. J'avais mon sac à dos. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. J'étais pas une adulte, donc j'avais pas de maison, je possédais rien.
Ouais.
Et je me suis rendu compte que tout ce que j'étais et tout ce que je possédais reposait sur la surface de la Terre sur ces 2 semaines en 39.
Il s'est passé beaucoup de choses quand même, parce que je vais raconter des petites choses. Non, mais je vous en prie.
Vous pouvez sécher vos larmes.
J'en profite.
Il y a eu surtout la fête de vos 18 ans à Monument Valley avec votre gâteau, une banane, la bougie, une lampe torche. Et oui, ça ne s'oublie pas. Votre nuit perdue dans le désert, votre unique but, faire bouillir de l'eau dans votre gourde rouge pour survivre. Et oui, et on va faire un pas en avant. Parlons de ce qui vous fait sûrement le plus avancer aujourd'hui, votre rôle de maman avec une naissance naissance annoncée à votre compagnon sur scène, puisque votre personnage était enceinte. Et donc là, vous lui avez dit « Je suis enceinte », mais c'était la vraie Noémie qui parlait.
Non, il l'a pris, vous étiez sur scène, il l'a pris comme ça
Waouh. La naissance de votre fils, beaucoup, hein. La naissance de votre fils qui a donné ensuite naissance à un groupe WhatsApp nommé Mini Chef, parce que vous êtes la chef. Et oui, un groupe qu'il faut relancer quand même, parce que personne n'a écrit depuis le 28 août. Et puis, chef de ce petit garçon avec qui vous avez une passion pour le mot « fesse ». Votre grand jeu...
C'est vrai ?
Mais oui, je vois pas, c'est insensé.
Votre grand jeu avec le papa et votre fils, c'est dire « fesse » en chuchotant. Eh oui, un trio qui ne recule devant.
Il y a même contre-fesse. Ah oui, mais quand on sent que l'autre va dire fesse, on fait contre-fesse.
Un trio qui ne recule devant rien, les parties de Uno, les Mario Kart, évidemment. Alors Noémie Delattre, vous n'avez fait que des pas de grand dans votre vie, toujours tout droit, d'un pas décidé, vous avez réalisé le rêve de cette petite fille de 4 ans. Vous êtes, oui, une féministe pour hommes avec un grand H, mais surtout une combattante pour tous.
Merci beaucoup, wow. Hélène.
Ah ouais, merci infiniment, c'est bouleversant. Et puis bouleversant à plein de... Il y a un peu un jeu de miroir, un vertige. C'est-à-dire que là, en fait, tout ce que vous avez raconté, ça raconte en vrai ce besoin désespéré d'être aimé. Et là, il se trouve que ce que je suis en train de vivre là, ça, c'est... Enfin, moi, petite, regardant les émissions de télé, les émissions de radio, on faisait des portraits de gens aimés et reconnus. Et d'un coup, c'est moi. Enfin, c'est comme si, en racontant ça, vous pensiez le problème du... Bref. Donc, c'est très joli.
Avec Tracy Chapman, pour dire salut à Hélène. À demain.
Restez
avec nous. Nous, on revient dans un instant avec notre premier indispensable, Nicolas Caro, qui va nous présenter deux romans inspirés de faits divers. Si j'osais, je dirais c'est fesses et contre-fesses. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Bondel.
En compagnie de la comédienne humoriste Noémie Delattre, je le rappelle, féministe pour hommes, c'est à la Pépinière Théâtre. Il y a un nouvel horaire spécial couvre-feu, c'est chaque dimanche à 18h. Alors si je puis me permettre, le spectacle est très drôle, mais également très émouvant. Je ne veux pas spoiler la fin, mais les gens sont très très émus et on passe du rire aux larmes. Sur scène, Noémie Delattre, je dois le dire, vous le faites toujours. Moi j'ai vu le spectacle il y a 2 ans, vous faites toujours le striptease quasi intégral.
Ah, tout à fait. Les gens n'ont pour leur argent.
Ben, je veux dire, pourquoi ? Alors, les gens et vous, ça va être le sens de ma question. À la suite de quoi, vous dites que vous adorez être nue sur scène. C'est la réalisation d'un fantasme ou est-ce que c'est un geste militant ?
Alors non, j'aime pas être nue sur scène. Il se trouve que là, la manière dont je me mets nue, c'est en fait c'est un numéro de burlesque que je fais. Voilà. Et donc j'adore faire ce numéro de burlesque. J'adore danser sur scène, être libre, avoir des éventails, me la donner, faire badam, badam. Voilà, c'est ça que j'adore. C'est vraiment un fantasme de gamine. Et là, genre c'est mon spectacle. Je fais qu'est-ce que je veux.
Non, mais c'est pas la nudité en soi. C'est
non,
la danse.
Pas du tout. Au contraire, d'accord. La nudité, c'est même c'est tout à fait militant, tout à fait politique et aussi disons. Psychopolitique, c'est-à-dire que c'est ma politique intime où j'y vais, allez, ça, t'assumes. Voilà.
Dans le spectacle, vous dites que la vie est plus facile en blonde. Vous racontez que vous avez... C'est vrai,
bah évidemment.
À votre regard, ah bon, pourquoi ? Qu'est-ce que ça change d'être blonde ?
Mais parce que les gens sont cons, les gens pensent que les blondes sont idiotes, et douces et fragiles, et on leur tient la porte, on leur porte leur sac, on leur offre au taxi...
Pardon, mais c'est horrible d'être pris pour un con.
Non, si ça te fait rentrer gratuit.
Expliquez.
Non, mais pour le coup, j'utilise le... Enfin, en blonde, j'utilise le sexisme latent qui fait que la brune est forcément manipulatrice, fourbe, etc., et dure, alors que la blonde, elle a toujours un petit côté con-con, et tout est plus facile en blonde. Mais même les rôles, c'est-à-dire que quand je suis blonde, alors au même âge, hein, parce qu'il m'est déjà arrivé de changer de couleur de cheveux vraiment dans l'année, en blonde, je suis toujours la jolie blonde, une belle blondinette, une belle femme, une machin. En brune, c'est toujours la maîtresse acariâtre, la voisine... La voisine perverse.
Et dans une interview, vous dites que ça change même quelque chose au niveau des forces de l'ordre.
Mais bien sûr. Ah bah je ne paye pas les mêmes amendes en blonde et en brune.
Mais c'est complètement dingue.
Mais c'est fou. Mais en fait, c'est ce que ça montre surtout, c'est la différence entre les gens beaux et les gens pas beaux, entre les gens gros et les gens pas gros, entre les gens porteurs de handicap et pas. Enfin, c'est cette injustice totale qui est on va voir une personne qui correspond.
Mais pas au niveau d'une amende pour stationnement ou pour franchissement d'un feu rouge.
Mais si, parce que et là pour le coup, c'est même pas elle est plus jolie. C'est juste la brune, elle l'a fait exprès. La blonde, elle savait pas.
Mais pardon de rire.
Mais non, mais évidemment, c'est pas tout le monde. Bien sûr que non. Mais c'est quand même quelque chose qui est relativement global, enfin qui est presque systémique. Quoi.
Vous êtes une grande lectrice.
Oui.
Ça pouvait pas mieux tomber. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour.
Ce matin, Nicolas Caro, qui est notre Monsieur Livre, c'est 2 livres pour le prix d'un seul.
Oui, 2 romans qui se répondent, qui font écho l'un à l'autre. Dans les 2 cas, c'est une analyse romanesque fine et touchante du rapport mère-enfant. Et les 2 sont inspirés de faits divers.
Le premier, c'est Rosa Dolorosa, c'est bien ça,
de Caroline Dorcafenec aux éditions de La Martinière. Ça commence joyeusement. Nous sommes à Nice, il y a la Rosa et son fils Lino. Ils sont plutôt contents, ils viennent d'obtenir un financement pour réhabiliter un vieil hôtel dans le Vieux-Nice. Ils vont le gérer ensemble, ils ont déjà imaginé la déco. À la réception, il y aura un immense aquarium avec des méduses dedans, ça va être très beau. Mais bon, d'abord, il y a le gros œuvre, beaucoup de travaux. Et puis, il faut vendre le petit resto dirigé par Rosa, un petit restaurant de quartier sans prétention, mais où on mange bien. Et puis, les clients aiment beaucoup Rosa, toujours sympa. Bref, ils sont très contents. Ils vont fêter ça avec quelques amis. Ils sortent, ils boivent, Rosa rentre chez elle. Et un peu après, elle entend Lino rentrer. Le lendemain midi, elle a repris son service dans le restaurant. Et pendant qu'elle sert un client, elle voit un escadron de policiers devant la porte de son immeuble qui se trouve juste en face du resto.
Et c'est elle qui cherche ?
En tout cas, elle a comme un pressentiment. Elle pose son torchon, elle les suit, ils sont déjà dans la cage d'escalier. Et effectivement, ils commencent à tambouriner à la porte de son appartement. Alors elle essaye de les calmer, elle leur explique que c'est chez elle. Mais ils ne viennent pas pour elle, ils viennent chercher Lino, accusé du meurtre d'un gamin de 8 ans. L'horreur.
Mais il est coupable, le petit Lino ?
En tout cas, il y a un ou deux indices, un témoignage un peu flou aussi. C'est pas très clair, mais évidemment, Rosa, elle, défend son fils. Et voilà, c'est ça, ce roman, c'est le combat d'une mère pour son fils et l'amour maternel contre tout et jusqu'au bout. Je m'arrête là, je veux pas spoiler et je vous donne pas le fait divers dont il est inspiré non plus, sinon je vous donne la fin de l'histoire.
Ah oui, surtout pas. Rosa, Dolorosa, vous le vendez bien. Ouais. La Martinière, l'éditeur, le deuxième livre ?
Le deuxième, c'est celui d'Adeline Fleury. Ida n'existe pas, chez François Bourin. Cette fois, je peux vous donner la fin puisque le roman commence par là. C'est un roman librement inspiré aussi d'un fait divers. Vous en souvenez peut-être, une femme condamnée pour avoir tué son bébé de 15 mois en le laissant exprès sur la plage à marée montante. Une femme en plus très intelligente, thésarde en philosophie, incompréhensible, horrible, il n'y a pas de mots. Bon, mais Adeline Fleury a voulu remonter le fil. Donc elle a voulu en mettre, elle, des mots. Elle fouille l'âme et la psychologie de son personnage pour saisir les mécanismes à l'œuvre, ce qui a conduit cette femme un jour à tuer son enfant. Alors faut s'accrocher, forcément, d'autant que c'est un livre court, fulgurant, 180 pages, et le style est rythmé, vif, rapide. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dans des longues considérations poético-philosophico-psychologiques sur la maternité. C'est brut, c'est la mère qui parle, qui raconte son amour incommensurable pour sa fille et ses bouffées de panique et même de haine. Tout en même temps, c'est une gifle. On en sort fatigué, bousculé, le genre de roman auquel vous repensez plusieurs jours, vous savez, après l'avoir lu. Ouais. Et ça, ça vaut pour les deux d'ailleurs.
Merci beaucoup. Ida, donc, n'existe pas. D'Adeline Fleury et Rosa Dolorosa de Caroline Dorcafenec. Merci beaucoup Nicolas Caro. Ça vous intéresse ? Et après, je m'en reste que vous lisez en ce moment, si vous avez quelque chose à nous recommander.
Ça m'intéresse beaucoup, mais je lis très peu de romans. Je lis très peu de romans.
Donc des essais.
Oui.
Et en ce moment, vous lisez quoi ?
Là, en ce moment, en fait, j'ai toujours une dizaine de livres sur ma table.
Ah oui,
je suis une. Surtout, je suis boulimique et puis j'ai pas le temps, donc c'est très contradictoire. Donc voilà. Et là, en ce moment, les quatre que je lis vraiment en même temps, c'est Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet, que je suis en train de terminer, qui est passionnant. Guerrière de Monique Wittig, bien dense aussi, poétique et engagée. Les couilles sur la table, qui est le livre du podcast
de Victor Troyon.
Voilà.
C'est magnifique.
C'est brillant, c'est génial. Et L'homme nu. De Marc Dugas. Donc on est quand même sur une thématique. Hein,
ouais, on va se mentir. En fait, c'est votre thématique, non ?
Oui.
Féministe pour homme.
Mais il y a un moment, effectivement, je suis dans une réflexion qui fait que je suis obligée de me nourrir en permanence. Et que j'ai envie, surtout, de me nourrir. Donc c'est pour ça que j'en achète plein. J'ai envie de les lire. Je les croise. Quand j'en arrête un, en fait, je les range,
impliqués
l'un dans l'autre pour garder la page. L'un garde la page de l'autre. Et puis je me dis que les mots parlent entre la nuit. Donc je fais parler parfois Dugas avec Wittig. Je me fais ma petite vie.
Qu'est-ce que c'est beau cette image des livres rangés l'un dans l'autre et qui peuvent communiquer comme
ça. C'est ce
que
j'imagine toujours.
Merci beaucoup pour cette image. Vous restez avec nous, Nicolas Caro. Faites comme vous voulez d'ailleurs. Merci beaucoup. L'émission continue dans un instant. C'est notre deuxième indispensable avec Eva Rock. Mais d'abord musique avec Marina Kaye.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de Noémie Delattre et avec le retour d'Eva Rock, Eva, vous revenez avec une nouveauté à découvrir sur nos écrans.
Deux nouveautés même. Oui, j'en ai trouvé deux qui sont liées, vous allez comprendre. Une programmation sur mesure pour vous, Noémie. C'est le collectif Golden Moustache qui vient de publier une nouvelle vidéo sur YouTube. Alors eux, ils nous avaient plutôt habitués à des sketchs potaches.
Ouais.
Eh bien, ils ont choisi de nous proposer un court-métrage de fiction qui évoque une histoire vraie, celle d'Alice Guy. Est-ce que vous connaissez cette femme à qui on doit énormément ?
Mais non.
Alors, on est à la fin du 19e siècle. Philippe, je sais que vous la connaissez. Alice Guy était la secrétaire des frères Gaumont. Ils venaient juste, eux, de commercialiser une nouvelle caméra. Et elle, elle a eu une idée, celle de raconter des histoires avec cette caméra, de la fiction, du rêve. Et elle évoque ce projet à Léon Gaumont, qui est très sceptique dès le départ.
Léon, je pense que Gaumont a le pouvoir de faire rêver les gens. Ses clients, même le monde entier. Comme Gutenberg avant vous, comme Jules Verne, ou comme Mozart. Léon, de qui se souvient-on aujourd'hui ? De Mozart ? Ou de celui qui lui a vendu son piano ?
Je trouve cette remarque très juste. Ouais. Il va finir par lui offrir une caméra afin qu'elle mène à bien ce projet de raconter des histoires au cinéma.
Et ça a marché.
Oui, 700 films. 700 films, elle a réalisé.
Mais non,
voilà,
mais
dont le premier s'appelle La Fée au Chou. Alice Guy fut donc la première femme réalisatrice. Elle avait son propre studio. Elle a fait tourner des acteurs noirs. Ça a été une vraie pionnière. Et d'ailleurs, en regardant son parcours retracé en partie dans ce très bon court-métrage, on se dit que finalement, ben on n'a pas avancé. Ce serait peut-être même plutôt le contraire. Et la preuve, grâce à un documentaire à voir également sur la page YouTube de Golden et qui est intitulé « Cinéma 2. Où sont les femmes ?». D'ailleurs, maintenant que vous savez qui est Alice Guy, vous allez entendre sa voix, la vraie voix.
Et j'ai proposé à M. Gaumont de faire quelques scènes de cinéma. Il m'a dit « Oui, c'est une affaire de jeune fille, en effet. Eh bien, mon Dieu, vous pouvez essayer, mais à une condition, c'est que votre courrier n'en souffre pas. »
Ah bah oui, il faudrait quand même pas
la secrétaire.
La secrétaire des Gaumont,
elle est extraordinaire. Elle est très belle en plus. Enfin voilà, il y a vraiment l'image est formidable.
Merci,
à aller voir ce documentaire.
Merci.
Et vous allez surtout comprendre, en 23 minutes, la démonstration est cinglante. Depuis Alice Guy, le monde du cinéma n'a guère fait de place aux femmes. Actuellement, sur 5 réalisateurs, une seule est une femme. Évidemment, je passe sur les conditions salariales différentes entre les femmes et les hommes, mais aussi les budgets de films qui sont moindres quand l'œuvre est placée sous la direction d'une femme.
Mais ça a quand même un peu mieux, non ? On n'est pas dans les années 50.
Alors, pardon pour la réponse. Mais bof, ouais. Bof, parce que les postes techniques par exemple sont squattés par les hommes. À la musique, il y a un producteur qui reconnaît n'avoir jamais reçu aucune proposition d'une femme. Peut-être qu'on est sourde, je sais pas, je me suis posé la question, allez savoir. En tout cas, ce sujet de discrimination homme-femme dans le cinéma est loin d'être anecdotique, parce qu'un film c'est une vision du monde, c'est la représentation de notre société aussi. Et écoutez ce qu'en dit l'historienne du cinéma, Geneviève de Sellier.
Tant qu'on ne peut pas imaginer des personnages féminins, puissants, intelligents, complexes, on ne s'autorise pas à l'être soi-même.
Et voilà, c'est résumé en une phrase, mais je trouve ça très fort.
Magnifique.
Je vous recommande donc à la fois le court-métrage de Golden Moustache, La fabuleuse histoire méconnue d'Alice Guy, et le documentaire Cinéma où sont les femmes, deux contenus à regarder sur YouTube. Et pardon pour cette précision, mais bravo à Golden Moustache d'avoir réalisé ce film, totalement décalé par rapport à ce qu'ils proposent habituellement. Mais j'espère que leurs 3 700 000 abonnés, qui sont souvent des jeunes, eh bien, vont être sensibilisés aussi à cette question à travers ce portrait de 5 minutes 30 qui est formidablement bien réalisé. Voilà.
Ça se voit pas, mais je souris. Ouais. Je suis folle de joie que ça existe et que Golden Moustache fasse ça. Je connais ce collectif qui est super. Enfin, c'est génial, je suis très heureuse. J'ai une petite question, je ne sais pas si vous avez répondu. Qui fait la voix d'Alice Guy dans le court-métrage ? Enfin, qui fait Alice Guy ? Enfin, la voix.
Alors,
en tout cas,
c'est une comédienne dont j'ai perdu le nom et ce n'est pas bien de ma part du tout.
Non, pardon,
Non, mais on va vous le retrouver tout de suite.
Je le dirai à la fin de l'émission. Justement, l'enchaînement est tout trouvé. Je ne savais pas que vous alliez parler de ça, Eva. Récemment, la militante féministe Alice Coffin a beaucoup fait réagir dans son dernier livre. Elle a écrit à propos des hommes : il faut à notre tour les éliminer symboliquement, les éliminer de nos esprits, de nos images, de nos représentations. Et elle ajoute : je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique. Est-ce que vous comprenez cette attitude ?
Alors, je n'ai pas lu le livre, donc
ces mots du livre.
Oui, bien
sûr.
Pas
de ce qui circule sur Twitter.
Oui, bien sûr, mais comme ils sont effectivement tirés du livre, comme vous dites, voilà.
Juste cette attitude, ce dogme de dire je n'écoute plus les musiques des hommes, je regarde plus les films des hommes.
Oui, je peux le comprendre. Je peux comprendre que ce soit dans une démarche, de la même manière que je comprends qu'il y ait des lesbiennes politiques, de la même manière que je comprends que certaines femmes fuient la compagnie des hommes. Je peux comprendre que dans une démarche intellectuelle, philosophique, de recherche ou de préservation de soi, je peux comprendre qu'effectivement une penseuse, une autrice parle de ça. Oui, tout à fait.
Et Eva Rock a la réponse à votre question.
Camille Clarisse, c'est la jeune comédienne qui joue le rôle d'Alice Guy et qui le fait formidablement bien.
Merci.
J'ai trouvé, c'est pour ça que je me suis quand même posé la question.
Merci beaucoup Eva. Noémie Delatte, vous restez avec nous. Culture Média continue, c'est la dernière ligne droite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de Noémie Delattre, féministe pour hommes, c'est à la Pépinière Théâtre, c'est le nouvel horaire couvre-feu, c'est le dimanche à 18h. Pourquoi on insiste? Parce que cette pièce revient, elle avait été nommée ou nominée au Molière comme étant le meilleur one-man show, et c'est pour ça qu'on va en profiter. Et en plus, il y a du sens, c'est pas seulement des blagues et des gags qui s'enquillent. Vous dites au début du spectacle, en fait, dites-vous, j'ai l'impression d'être une fausse fille, très astucieusement déguisée en vraie fille. C'est très beau, mais ça veut dire quoi?
J'espère que je ne vais pas vous décevoir avec l'explication. En fait, l'idée, c'est qu'il y a justement une définition de ce que doit être la femme. C'est l'éternel féminin. La femme doit être ceci. Déjà, on dit la femme, alors qu'on est juste des milliards, en fait. Mais la femme doit être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, moi, je ne me suis jamais retrouvée dans cette description. En revanche, pour ne pas mourir, je joue le jeu. Donc j'ai vraiment l'impression d'être qui je suis, c'est-à-dire pas douce, pas silencieuse, pas gracieuse, pas mince. Ouais. Mais en revanche, d'avoir tout fait pour en avoir l'apparence.
Au point que vous avez même tapé sur le micro, donc qui n'est pas un geste de femme.
Qui n'est pas un geste de femme, exactement. J'étais
si
maladroite
en ça.
Et gourde.
Il y a presque un an, c'était le 21 novembre, vous étiez l'invité d'Anne Romanoff sur Europe 1 dans son émission « Ça fait du bien ». Et au détour d'une question, vous avez fait, Noémie Delattre, une sacrée confidence.
Noémie Delattre, vous avez l'air très heureuse. Vous avez des projets au cinéma, à la télévision?
Alors, je suis effectivement très heureuse, mais je suis à un endroit de ma vie où, justement, j'ai un bonheur qui ne dépend plus de l'extérieur, donc ni les gens, ni les projets. Donc, c'est en moi, cette petite flamme.
Et comment vous avez réussi ça, alors?
15 ans de psychothérapie et la mort de l'intégralité de ma famille en 9 mois.
Mais comment vous pouvez dire ça avec le sourire? Ils sont tous morts en 9 mois dans votre famille?
Oui.
C'était quand?
En 2018. Enfin, non, ça a commencé... En août 2017, j'ai 40 ans et on m'apprend que ma mère est condamnée. Et 9 mois plus tard, j'ai perdu ma mère, ma demi-sœur, mon parrain, mon père, mon chat, ma psy s'est barrée, mon mec m'a quittée. C'est vraiment quand je dis toute ma famille, c'est toute ma famille. Et puis il y a même une partie qui n'est pas morte, vraiment, mais qui est morte symboliquement, puisqu'ils m'ont abandonnée. Donc c'est vraiment, je me suis retrouvée vraiment en 9 mois, absolument seule.
Avec l'enfant?
Oui. Et en fait pas seul, parce que justement seul avec l'enfant, avec des amis, avec mon métier, avec le public, en fait avec plein de gens, en fait heureuse.
On n'est pas là pour faire pleurer dans le chaumière. Comment vous avez réussi à remonter cette pente, si tant est qu'il y ait une pente à remonter? Comment vous avez retrouvé ce sourire?
Mais en fait, c'est pas très bizarre à dire, hein, et c'est pas du tout, et ça veut pas du tout dire que tous les gens qui perdent des proches peuvent. Enfin, il se trouve que moi, ça a été libérateur. En fait, c'était tellement énorme, tellement fort, tellement soudain que ça m'a tout de suite projeté dans tout ce qu'il y avait, tout ce qui restait, plutôt que de voir en creux tout ce qui partait. J'ai vu tout ce qui restait. J'ai vu ce que j'avais en moi, j'ai vu ma force, j'ai vu ma résistance, ma résilience, j'ai vu la chance que j'avais d'avoir un enfant, d'avoir des amis merveilleux. Et puis aussi, c'est ça qui était formidable, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui n'étaient pas des amis, mais qui pouvaient être là à un moment. En fait, que le monde entier, l'univers, tout le monde pouvait être source de joie, de bonheur à un moment.
Il nous reste malheureusement très peu de temps. Vous serez après-demain, mercredi, dans 10%. C'est quoi votre rôle?
C'est un tout petit rôle, mais très très savoureux. Dans les premiers épisodes, voilà. Mais plus tard, dans les derniers épisodes, j'ai une scène que j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner.
Et aussi deux pièces de théâtre?
Oui. Tout à fait. Je joue Des plans sur la comète de Tristan Petit-Gérard en tournée. Je joue La dernière lettre de Violaine Arsac très bientôt. Et je joue Saba, une création collective en tête dansée que j'ai mis en scène au Consulat à partir du 10 novembre.
Dites donc, plus féministe pour hommes à la Pépinière Théâtre, c'est ce qui nous intéressait aujourd'hui, oui. C'est le dimanche à 18h. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, Noémie Delattre. C'était génial.